Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Bonjour, bienvenue à votre émission Mon Chaussure. Je suis aujourd'hui avec une grande invitée du côté de la formation et je suis avec Anne-Marie Porras. Bonjour Anne-Marie Porras.
Bonjour.
Alors, j'aimerais que vous me racontiez qui vous êtes et que vous présentiez la philosophie de votre école, un peu les horizons que vous voyez pour votre formation. Et ensuite, je vais vous poser quelques questions pour finir
d'accord.
En beauté.
En fait, je suis arrivée il y a à peu près 43 ans au Faubourg Figuerol. J'avais envie, en revenant de Bruxelles, avec le modèle de Maurice Béjart qui avait une école qui s'appelait Moudra, de travailler en équipe avec des amis qui avaient la même passion que moi, avec des techniques différentes, et de travailler dans le partage. Donc c'est comme ça que j'ai créé cette école qui, à l'époque, s'appelait Mukti. Parce que Mukti, en sanskrit, veut dire libération du corps et de l'esprit dans l'espace. Donc en fait, c'était une danse libre comme ça que je voulais partager. Et c'est devenu, avec la loi sur le diplôme d'État, un centre de formation professionnelle qui s'appelait PSEDANCE.
PSEDANCE, voilà. Oui. On connaît tous, mais c'est bien de revisiter un peu de temps en temps
l'origine.
Les personnes qui ont été à l'origine.
Oui. C'est une vraie passion d'accueillir une jeunesse de tout horizon. Et même si, lorsqu'ils veulent rentrer, ils n'ont peut-être pas le niveau, mais je leur demande toujours un travail personnel, de me faire voir leur propre écriture. Et c'est surtout à travers ça que je sais s'il y a matière à développer la personne. Et ce qui est important pour moi, c'est que chaque danseur ne doit pas entrer dans un moule, il doit avoir une identité propre. Mmh. Et c'est à nous, l'équipe, de faire évoluer, de faire éclore cette propre personnalité. Et j'adore ça.
D'accord. Et quand vous parlez d'écriture, vous parlez seulement de l'écriture en alphabet ou vous parlez d'autres types d'écriture aussi?
Non, quand je parle d'écriture, en fait, c'est l'écriture chorégraphique. Il y a des gens, cette année, j'ai accueilli quelqu'un qui venait du Nigeria, qui est arrivé comme un danseur danse traditionnelle africaine. Et en fait, il avait tout à apprendre, la danse classique, la danse contemporaine. Les ateliers, lui, il ne savait pas ce que ça voulait dire, l'improvisation. Il était toujours en improvisation, de toute façon. Et pour lui, c'était le plus difficile, c'est de mettre sa main sur une barre, par exemple, et de savoir ce que c'était, ce contact, et qu'est-ce qu'on pouvait faire lorsqu'on avait un appui. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant et très émouvant. Mmh. De voir quelqu'un comme ça qui vient d'un autre horizon de la danse avec son écriture personnelle, son langage chorégraphique, corporel, et de le voir découvrir quelque chose et de voir comment il peut rencontrer ces écritures-là et en faire quelque chose. C'est absolument passionnant.
Oui, c'est passionnant. Moi, je suis très passionné par l'écriture chorégraphique, par les diverses façons dont on a travaillé, les systèmes Conté, les systèmes Laban et un autre système que je viens d'oublier. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment on peut transcrire quelque chose sur les papiers qui est assez compliqué. Et d'ailleurs, mon émission veut aussi être une sorte de transcription à la radio de la description du mouvement qui est assez...
Oui, c'est Angelin Presse-Locage, je crois, avec la méthode de Benesch, je crois qu'il fait, voilà, c'est ça. Okay. En fait, tous ces ballets sont absolument marqués comme
c'est
ça.
C'est impressionnant.
C'est étonnant, c'est vraiment étonnant, c'est tellement précis. En fait, comme ça, il a des archives de ses papiers à l'identique et ça ne peut pas changer.
Ok, ouais. Et alors, quelle peut-être anecdote intéressante depuis la formation dans l'école? Vous pourriez vous souvenir de façon un peu...
Pour moi, il y a un souvenir ancien où j'ai appris le son du mouvement. J'ai donné des cours à des sourds-muets, en fait. Et comme ils ne s'entendaient pas, ils pouvaient transmettre le son qu'ils éprouvaient corporellement avec par exemple un saut, un tour, un passage au sol, qui est un son tout à fait différent. Mais donc, il n'était pas bloqué pour faire que ce que nous n'osons pas. Mmh. Et j'ai beaucoup appris de ça. En fait, c'est que pour moi, la danse n'est pas silencieuse. Elle n'a pas de mots, mais elle n'est pas silencieuse. Il y a cette énergie-là qui se véhicule et que j'ai senti avec les sons muets. Et en fait, c'était une aventure incroyable qui reste marquée pour moi.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu aussi, dans mon parcours, une expérience avec une personne qui voyait très peu. Et ça change tout de notre perception, de la façon comment nous, les personnes valides, nous mouvons, nous percevons l'espace. Mm-hmm. C'est vrai que ça transforme la vie de quelqu'un on peut être sensible à d'autres façons de perception.
Mais je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est justement rencontrer une différence. Quelque chose qui nous apporte, si c'est un vase communicant, d'un seul coup on se retrouve face à quelque chose qui est un petit peu étranger à nous et cette rencontre-là naît un partage et ça c'est fantastique.
D'accord, alors et comment trouver le bonheur par la danse ?
Le bonheur, c'est, on le trouve absolument dans la danse. Enfin, pour moi, c'est parce que je suis beaucoup dans la transmission, en fait. Et lorsque je vois quelqu'un qui est en difficulté arriver à faire quelque chose, le bonheur que cette personne ressent, je le ressens immédiatement. Mmh. Il y a quelque chose d'enfantin, comme un enfant qui arrive à marcher d'un seul coup, quelque chose comme ça. Et ça, je l'ai découvert avec des grands débutants, par exemple. Des gens qui n'ont jamais fait de danse et qui, d'un seul coup, doivent traverser un espace, ne serait-ce qu'en marchant et en regardant droit devant, tout ça, des petites choses comme ça, qui au début baissent la tête, n'osent pas, et puis petit à petit se redressent et puis arrivent à franchir l'espace. Ça, c'est vraiment un grand bonheur.
D'accord. Donc, c'est une sorte de savoir être, savoir une présence.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai appris ça avec Ingeborg Lipte, qui est une grande dame, mais qui n'enseigne plus maintenant, hein. Mais quand je suis rentrée dans sa classe, elle m'a vraiment demandé ce que je sentais l'air sur le visage lorsque je marchais. Okay. Est-ce que je sentais le contact du sol sous mes pieds ? Parce qu'il fallait travailler pieds nus avec elle. Et ça, vraiment, elle travaillait uniquement sur la sensation et ce qu'elle m'a donné. En fait, j'essaye de le transmettre aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la technique qui est importante, sauter plus haut, tourner plus, endroit, toujours quelqu'un qui va faire plus. Mm-hmm. Mais la sensation, elle est très personnelle.
Personnelle, oui. Ok, ok. Quels sont peut-être les pièges à éviter quand on est enseignant, quand on est devant des élèves ? Quels sont pour vous, sur votre expérience, ces types de pistes, pièges qu'il faut...
Alors, l'artiste qui est en face de nous, en fait, il faut qu'il évite d'être narcissique un petit peu, éviter le miroir qui est toujours dans les salles de danse. Moi, je tire les rideaux chaque fois pour que le regard soit intérieur et non pas extérieur. Après, ce qui est compliqué, après, du côté de l'enseignant ou du chorégraphe qui est en face, en fait, c'est de développer un attachement excessif. Parce qu'après, il ne peut plus partir parce qu'il est tellement attaché. Et donc, au niveau de l'affect, il faut faire attention, il faut être prudent. Il faut, bien sûr, c'est avec de l'amour qu'on peut faire travailler quelqu'un, parce que s'il sent cette confiance en face et de l'amour, évidemment, il va se laisser aller, mais aussi, il faut être de l'autre côté de la rive et lui laisser justement cette possibilité de faire des allers-retours sur la passerelle. Sinon, après, il ne peut plus revenir, il ne peut plus s'envoler.
D'accord. Waouh, j'avais jamais pensé à ça.
c'est là, par exemple, au studio, on a eu 3 engagements, 2 qui ont été pris au CNDC d'Angers et une autre au Ballet Junior de Genève. Et en fait, qui ont passé 3 ans au studio. Et pour eux, c'était des vallées de larmes, quoi. Ils pleuraient, pleuraient, parce que ils sont comme dans un cocon, ils sont tellement bien, ils arrivent à se développer. Au bout d'un moment, il faut qu'ils aillent se nourrir ailleurs, c'est normal. Mais ils n'arrivaient pas, c'était très douloureux pour eux. Ouais.
D'accord. Et alors, peut-être un pas des danses préféré, un geste ?
Moi, j'aime la spirale.
Le spiral. Ouais, okay. Ça, c'est très de la culture indigène.
Oui, j'aime ça. J'aime le rond. J'aime le rond. Et si je fais un impact au niveau d'un mouvement, j'aime l'écho de cet impact. Donc, en fait, et pourquoi la spirale ? Parce que c'est infini, en fait. Mm-hmm, oui. C'est infini et ça part tout le temps. Ça part du bas vers le haut. Mm-hmm. Comme ça, ça part et ça continue. Et je me rends compte, lorsque je travaille ou lorsque je crée, que je mets des spirales tout le temps. Que ce soit au sol, en marchant, je fais du rond tout le temps.
Parce que ça, c'est peut-être la grande différence entre les diagrammes occidentaux et les diagrammes des peuples amérindiens.
Oui.
Je viens d'un pays où il y a 68 cultures vivantes, donc je connais un peu. Et dans une expérience avec eux, c'est eux qui nous ont pu faire remarquer que les spirales, c'était pour toute une cosmogonie.
Oui.
Pardon. et qui voulait dire tout simplement que quand il y a le mal, on ne peut jamais le chasser, on peut juste le mettre dans un tout petit coin et toujours le chasser, mais si on veut le détruire, c'est pire. Et donc, c'est toute une philosophie autour de la spirale qui m'a beaucoup marqué et que je peux comprendre aujourd'hui. C'est très utile pour les mouvements et pour beaucoup, beaucoup d'autres choses.
C'est vraiment utile parce qu'en plus de ça, dans la spirale, il y a une énergie incroyable, quoi. Le cercle nous amène dans une énergie, comme c'est pas pour rien qu'il y a les derviches tourneurs aussi. Il y a quelque chose qui tourne là comme ça et c'est comme hypnotique un petit peu dans le corps, hypnotique, à l'intérieur. Ouais,
c'est ça. Quel chorégraphe grand vous adorez? Bon, je sais qu'il y en a énormément.
Il y en a aujourd'hui, beaucoup et pour des raisons très différentes, je peux les aimer. Par exemple, j'aime beaucoup Ofer Shechter.
Ah oui.
Parce qu'il y a une liberté.
Il est israélien.
Il est israélien. Il y a une liberté dans son mouvement qui est incroyable. Il y a une énergie qui est incroyable. Et j'aime aussi Angelin Préjocage, qui est tout à fait dans une autre écriture, qui est à l'opposé et que je peux regarder avec curiosité, tellement c'est placé, c'est pas déplacé, c'est quadrillé, enfin, tout est noté de toute façon. Mm-hmm. Donc, mais j'aime aussi la danse traditionnelle, tout ce qui est tradition. J'aime beaucoup la danse africaine, je trouve ça très beau, cette énergie qu'ils ont. La danse indienne, c'est incroyable, c'est tellement précis aussi au niveau des regards. J'aime tout.
Surtout ce qui se passe en dessous des costumes aussi, parce que les costumes sont grands, donc on ne voit pas toute la finesse de chaque mouvement, et c'est assez incroyable.
Ouais. C'est vraiment étonnant, hein. C'est vraiment... Et une fois, dans un voyage en Indonésie, j'étais allée voir des enfants dans une salle de danse, et c'était vraiment très très beau de voir à quel point ils pouvaient être précis.
Oui, à être précis, je vous écoute.
Et donc, si sérieux, alors qu'ils étaient petits, hein, ils devaient avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Et le respect qu'ils avaient pour entrer dans la salle de danse, en fait, c'était incroyable.
Nous revenons ici aujourd'hui avec notre cher invité sur votre émission Mont en chaussures. Je vais y arriver. Anne-Marie Porras, une grande formatrice de Montpellier, qui est ici aujourd'hui pour nous parler de sa philosophie de vie, sa philosophie dans la formation. Et on est en train de parler des quels gestes on préférait, non ?
C'est ça, oui. On était parti sur la spirale.
Sur la spirale, ok. En fait. Et par rapport aux gestes quotidiens, lesquels vous pourriez dire qui vous plaît le plus ? Il y a des chorégraphes qui ont des fixations, par exemple, avec des chaises. Donc, s'asseoir, s'élever.
Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est dès le matin, tout ouvrir pour que l'air circule dans la maison et aller m'asseoir, prendre mon café en écoutant les oiseaux. Et ça, je fais ça tous les matins, que ce soit l'été, printemps, l'hiver. C'est un moment privilégié. Je me lève plutôt exprès pour ressentir ça et qui me met dans un calme pour être dans la journée, être assez réceptive, écouter, comprendre, aider si je peux. Mais j'ai besoin de ce calme quotidiennement, oui, tous les matins.
Et pour vous, il y a danse où ? Il n'y a pas de danse où ? Où est-ce que la danse finit ? Où est-ce que la danse commence dans votre expérience ?
Ah, oh, quelle question là ! Où commence la danse ? Moi, je sais pas, c'est tellement personnel. La danse, pour moi, elle est dans ma tête tout le temps. Donc, je ne sais pas. Une fois, j'étais en voiture avec un compositeur. Et en fait, lui... où commence la musique, c'était simplement, il faisait ça tout le temps, sans arrêt. Il regardait quelqu'un marcher, il tapait sur le tableau de bord de la voiture. Et en fait, en regardant les gens qui étaient autour, tout le temps, il était en train de faire ça. Et en fait, je lui avais posé cette question, je lui ai dit, mais quand est-ce qu'il n'y a pas de musique chez toi ? Il m'a dit, mais c'est tout le temps. Et en fait, c'est vrai que... tout à l'heure, en venant ici, il y avait une dame qui marchait devant moi. Elle marchait assez vite comme ça. Et j'étais en train de regarder le tempo de sa marche. En fait, c'est inconscient. C'est quelque chose, elle avait quelque chose qui faisait comme ça, qui faisait comme un rebond africain. Et je la regardais, je me suis mise derrière elle. Et du coup, je ne la doublais pas. Et elle s'est retournée à un moment donné. Elle devait se demander. Mais je regardais simplement le tempo de son corps. C'est quelque chose qui fait partie de nous, comme une respiration, en fait. Donc, je ne sais pas quand ça s'arrête.
Oui, quand
je m'endors, peut-être, je ne sais pas.
Même dans les sommeils, on a parfois des mouvements quand on rêve aussi.
Ah oui.
Mais ça, je suis de votre avis, je pense que la danse, surtout aujourd'hui, avec autant de développement, j'ai eu la chance d'être en Allemagne pendant un an et c'était assez intéressant de voir comment la danse était partout, elle était analysée dans tous les sens, même en relation avec les sciences. On se rend compte que plus on fait de l'art, plus on est observateur et plus c'est envahi, cet univers est envahi dans notre quotidien.
Oui, c'est vrai.
Vous le dites.
C'est vrai.
Ouais. Ok. Mais peut-être d'une autre façon, contre quoi vous luttez ? Quelle disposition ? Quelles impulsions ? Quel mouvement ? Quelle suggestion complète dirige ou gouverne votre vie micropolitique ?
Oui, moi je pense que la politique, elle est au quotidien, dans sa façon de vivre aussi. Hein. Mais moi je lutte contre la violence, contre le pouvoir, contre le mauvais pouvoir, la prise de position uniquement pour avoir du pouvoir. La haine, c'est vraiment terrible, ça transforme tous ces gens-là qui sont... habité par ça en terroriste, tout simplement. Et ça me fait vraiment très, très peur. Et il y a quelque chose qui... Par exemple, quand je me suis installée au Faubourg Figaro, le Faubourg Figaro à Montpellier est un quartier très marqué. Voilà. On m'a dit, mon Dieu, mais ton école ne marchera jamais dans un quartier comme ça, personne ne viendra. Je n'ai jamais eu de soucis avec le quartier. Il suffit simplement d'être les uns avec les autres et pas contre les autres. Et tout se passe très bien. J'ai l'épicier d'en face qui fait carrément crédit aux élèves quand ils n'ont pas l'argent sur eux pour manger. Tout se passe merveilleusement bien. Je veux dire, c'est... Et ça, je tiens vraiment à le conserver. Je dis simplement aux élèves, quand elles avaient l'habitude de sortir en collant pour aller s'acheter une bouteille d'eau, je dis non, là, vous respectez, vous habillez, vous traversez, vous prenez, et puis vous, après, vous revenez. Dehors, ce n'est pas la salle de danse. Donc. Et c'est simplement ça, simplement, oui, non, ce qui me fait très peur, c'est la violence. Ouais.
On fait une petite pause et on revient. Nous revenons aujourd'hui à nouveau avec Anne-Marie Porras de l'école EPSE Danse dans les quartiers Figuerolles à Montpellier. qui est venu nous raconter un peu son expérience, son longue expérience, riche et complète. Maintenant, nous allons lui poser la question sur la publication, sur les écritures qui se veulent pour compléter l'existence de l'école. Qu'est-ce que vous en avez
Alors, pour moi, ce qui est important, c'est que quand ils arrivent, ils rentrent chez nous avec une audition, hein, donc ils prennent 3 cours pour que je puisse voir un petit peu leur niveau technique. Et puis après, il y a toujours la présentation d'un travail personnel. Et cette année, j'ai voulu monter un groupe pré-professionnel, c'est-à-dire je me rendais compte qu'en sortant de l'école, parfois ils n'avaient pas les outils pour entrer directement dans une compagnie, rester encore un petit peu élève. Donc en fait, j'ai créé pour la saison qui arrive une cellule d'excellence en partenariat avec la compagnie d'Offèche-Echter et Angelin Préjelocage. Voilà, donc il y a simplement 25 candidats pour ça. Et là, il va y avoir beaucoup de développement personnel artistique en fait. Ils vont avoir beaucoup d'ateliers, beaucoup d'improvisation, beaucoup de création personnelle. Ils devront montrer des travaux, faire de la recherche. Ils ont les studios à disposition pour ça. Et ensuite, avec des partenariats avec quelques théâtres que j'ai autour, ils montrent leur travail parce qu'il ne faut pas que ça reste seulement en studio. Ils doivent être sur le plateau. Et un partenariat aussi avec un centre qui s'appelle TSV, qui sont des étudiants en lumière, son, décor. Et donc, en fait, c'est mettre face à face un danseur tout frais, avec un technicien tout frais, et en fait, qui fasse en même temps ensemble une création. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils tâtonnent beaucoup, il y a beaucoup de maladresses qu'ils arrivent petit à petit à corriger. Et ils montrent vraiment une création, mais souvent je suis étonnée, très étonnée. Il peut y avoir par exemple un danseur qui n'est pas très fort techniquement, mais qui artistiquement, c'est un diamant. C'est vraiment, c'est quelque chose de très pur, d'innovant. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment fantastique. Et donc, c'est ça que je veux développer l'année prochaine, aller encore plus loin. Et que Offèche me donne sa confiance, ainsi qu'Angelin. Pour moi, c'est vraiment une marque de confiance par rapport à donner leur nom et venir faire travailler les danseurs pour aller plus loin, encore plus loin. Donc, c'est ce qu'on va démarrer. Je suis très, très impatiente du mois de septembre.
C'est très bien, alors.
Oui.
On ne sait pas quand on sera et on aura l'émission. J'ai perdu mes mots.
Mais on revient, on pourra revenir avec eux.
Bien sûr,
revenir
avec eux, ça, c'est l'idée. Ok, Marie Porras. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, des flash mobs, des choses qui sont aujourd'hui, avec les nouvelles technologies
Mais ça va tellement loin, là. C'est vraiment incroyable. Hein. Je regarde ça. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la nouvelle génération, ils savent très bien faire fonctionner tout ça. Hein. Ça me scotche. Hein. C'est vraiment fou. Mais non, je suis curieuse, en fait. Je crois qu'il n'y a rien que je rejette. Je vous ai dit tout à l'heure, à part la violence et la haine et tous ces choses. Mais ils m'apprennent beaucoup. Ils sont chez nous pour apprendre, mais moi, j'apprends d'eux tous les jours.
Tous les jours, tous les jours. Et la place du cinéma, pour vous, est-ce que vous avez des films, des réalisateurs que vous aimez ou que vous ont inspiré dans votre travail?
Là, il y a un dernier film, c'est quelque chose en plus.
Ah.
Oui, sur les handicapés, en fait. Okay. Mais en fait, je ne me rappelle même plus le réalisateur.
Bon, c'est pas grave.
Mais enfin, j'invite les gens à aller voir ce film. C'est vraiment très beau. Vraiment.
Je travaille avec l'handicap. Je travaille avec une association qui travaille art et handicap.
Oui.
C'est assez intéressant de voir.
Bien sûr.
D'apprendre aussi, de réapprendre à bouger, quoi.
Voilà, c'est ça. Oui.
Même avec toute l'expérience, c'est vrai qu'on a toujours... Quand on n'apprend pas, c'est parce qu'on a laissé passer des côtés quelque chose de grandiose. Ouais.
Mais tout ça, c'est une philosophie. Hein.
Oui. la philosophie, elle est très importante. On vous remercie de votre écoute et on se reverra bientôt.
Merci beaucoup.
Alors, tu veux faire danseur?
Ah, push. and turn and table dog.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!